BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Toutes nos actualités avec nos reporters et nos invités également. Au sommaire de ce mercredi 5 octobre, les principaux fournisseurs d'énergie qui ont signé cette fameuse charte de bonne conduite qui les engage à protéger les entreprises, annonce ce matin de Bruno Le Maire. Qu'est-ce que cela implique? On va poser la question à Thomas Sasportas. Réunion des membres de l'OPEP+ cet après-midi en physique. À Vienne, au menu une probable baisse significative des quotas de production de pétrole pour soutenir un marché chancelant. On va parler des enjeux de cette baisse dans notre focus avec Benjamin Louvet dans deux minutes. Et puis, à l'occasion du mondial du bâtiment, nous nous intéresserons aux matériaux de construction. Le ciment, par exemple, si émetteur de CO2. Julien Blanchard, président de Hoffmann Green Cement Technologies, viendra nous parler de son ciment vert dans une dizaine de minutes. Et puis, à 12h30, comme tous les jours, BFM avec vous. Lorraine Goumeau va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. On recrutera également à 12h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal. Les principaux fournisseurs d'énergie qui ont signé donc une charte les engageant à protéger les entreprises dans ce contexte de hausse de l'inflation, des prix de l'énergie, annonce tout à l'heure de Bruno Le Maire qui les recevait ce matin à Bercy, le ministre de l'économie qui a aussi annoncé un plafonnement du prix de l'électricité pour les producteurs, on l'écoute.
À partir du moment où les prix sont délirants, l'État et les États européens fixent un prix que nous jugeons raisonnable, 180 euros, qui permet à l'entreprise de vivre normalement de ses bénéfices. Et la différence entre ce prix de marché que nous jugeons raisonnable, que tous les États européens jugent raisonnable, que la Commission européenne juge raisonnable, 180 euros le mégawatt, et le prix de marché délirant, 500 euros le mégawatt, parfois plus, nous le récupérons. Ça s'appelle une rente. Et autant je suis défavorable à une nouvelle taxe, autant je serai intraitable sur la récupération de cette rente.
Voilà la fermeté de Bruno Le Maire. Bonjour Thomas Sasportas. Les revenus des producteurs d'électricité qui seront donc plafonnés à 180 euros le mégawattheure. Mais concrètement, comment est-ce que ça va aider les entreprises à payer leurs factures, Thomas?
Alors déjà, on vient d'entendre Bruno Le Maire. Bruno Le Maire très offensif. Il faut bien comprendre que cette nouvelle mesure annoncée ce matin par le ministre est la réponse du gouvernement à la pression de la NUP pour introduire une taxe sur les super-profits dans le débat budgétaire. Ça va vraiment être le point chaud des discussions du budget à l'Assemblée. Mais ensuite, très concrètement, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ce plafonnement à 180 euros du mégawattheure, il va concerner tous les producteurs d'électricité, les renouvelables, le nucléaire, les centrales à gaz et à charbon. Ça va permettre à l'État de récupérer de nouvelles ressources. Bruno Le Maire les évalue entre 5 et 7 milliards d'euros, qui s'ajoutent aux 19 milliards d'euros déjà prévus dans le budget en récupérant les super profits des énergies renouvelables. Tout cet argent, à la fin, il sert à financer le bouclier tarifaire pour les ménages, les aides aux entreprises en difficulté à cause de l'énergie, et Bruno Le Maire fait le forcing auprès de Bruxelles pour doubler le montant de ces aides et enfin aussi les aides aux collectivités locales en difficulté à cause de l'énergie. Ça aussi, ça va être un point chaud du budget. Donc voilà à quoi va servir ces 5 à 7 milliards d'euros supplémentaires. Et j'en termine avec aussi une annonce côté européen qui est tombée dans la matinée, quasiment au même moment que celle de Bruno Le Maire. Cette fois, du côté de la Commission européenne, sa présidente, Ursula von der Leyen, dit qu'elle est prête à plafonner les prix du gaz en Europe. Là, c'est une vraie mesure pour faire baisser les prix, pas une mesure de redistribution. Et cette mesure sera précisée d'ici à la réunion des chefs d'État qui se tient vendredi à Prague.
Merci Thomas. Jean-Marc?
Oui, c'est des mesures d'urgence, mais c'est des mesures qui ne peut être que des mesures de court terme, parce que l'origine de tout ça, c'est le fait qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, parce que l'offre ne suit pas, et c'est pas en faisant des tuyaux pour prendre aux uns pour donner aux autres qu'on va recréer de l'offre, c'est-à-dire qu'on va inciter la Russie à remettre du gaz sur le marché, et donc à la fin des fins, tout ça, ça se terminera soit par l'arrêt de la guerre, soit par un retour de la Russie sur le marché à des conditions normales, soit par du rationnement, des tickets de rationnement, et quand on commence à bricoler avec les prix du marché noir, alors sur le gaz, c'est compliqué de faire du marché noir, mais je crois qu'il ne faut pas que nos dirigeants se fassent d'illusions. Ils gagnent du temps, mais ils ne résolvent pas le problème.
Oui, effectivement, tout tout dépend de ce calendrier de la guerre. Le gaz comme le pétrole, hein, dont on va parler tout à l'heure, réunion de l'OPEP+, à 14h. Merci beaucoup Thomas Sasportas. Et puis, coup d'envoi aujourd'hui de la concertation sur la réforme des retraites. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, reçoit l'ensemble des partenaires sociaux en début d'après-midi. Les organisations syndicales vont y participer. Elles ont fait savoir, en revanche, que la question du report légal de l'âge à la retraite n'est pas négociable. Pour Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT, d'autres points de discussion sont en revanche possibles aujourd'hui. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin, on l'écoute.
Sur la pénibilité, je pense que sur la pénibilité, c'est le premier point d'attention à avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés travaillent de plus en plus longtemps. Il y a des salariés qui commencent à travailler tôt sur des postes qui sont exposés. Il faut prendre en compte cette situation-là. Deuxième point, l'emploi des seniors. On a aujourd'hui en France une situation de l'emploi des seniors qui est deux fois moins intéressante que les pays nordiques au niveau européen,
c'est
par
vrai,
exemple.
On
agit sur l'emploi des seniors, on règle une bonne partie du financement des retraites. Donc comme quoi, il y a plusieurs curseurs qui peuvent nous aider à agir. Et c'est quand on aura balayé l'ensemble des questions qu'on abordera la question du financement.
Voilà le dossier des retraites sur la table, encore une fois Jean-Marc Daniel. C'est le gros morceau. Hein.
Oui, c'est le gros morceau, juste pour signaler que la Cour des comptes, en commentant les comptes de la Sécurité sociale, a fait des remarques un peu désabusées sur les retraites en disant écoutez, ça part dans tous les sens, il faut quand même voir en tête qu'il y a un déficit, qu'on a beau essayer d'argumenter que mais non, les comptes sont équilibrés, ceci, cela, que la population vieillit et que ça se traduit forcément par des problèmes sur le régime de retraite.
Et puis regardez tout simplement le rapport du COR qui est tombé il y a quelques jours, qui est très net et voilà, chiffré,
voilà,
documenté.
Tout le monde dit, redit, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça à vivre à crédit sur le régime de retraite.
Allez, c'est l'heure de notre focus. On va parler de cette réunion de l'OPEP+, qui a lieu cet après-midi en physique à Vienne. En physique, c'est un retour hein, depuis deux ans. Et ce qu'on attend, eh bien, c'est une baisse significative des quotas de production de pétrole. On en parle avec vous, Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières au FI Asset Management. Cette réunion, bon, on parle d'une baisse significative. On a même entendu ce chiffre, 2 millions de barils.
Oui, bonjour Sandra. Effectivement, on envisage une baisse qui pourrait aller jusqu'à 2 millions de barils, même si on n'a pas encore les détails. Alors, il faut savoir que dans les faits, cette baisse sera sans doute inférieure à ce montant, pratiquement, parce que aujourd'hui, on parle de 2 millions de barils de baisse de production par rapport aux chiffres officiels de production autorisés pour chaque pays membre de l'OPEP et des pays alliés dans l'OPEP+. Or, beaucoup de ces pays aujourd'hui n'ont pas la capacité à produire au niveau maximum qui leur a été attribué. Donc en réalité, la baisse devrait être inférieure à ça, potentiellement se situer aux alentours de 1 million de barils, peut-être un petit peu moins. Mais cette baisse, entre guillemets, aujourd'hui, l'OPEP la présente comme une baisse technique et qui est, entre guillemets, cohérente avec l'attitude des banques centrales, et notamment de la Banque centrale américaine. C'est comme ça qu'ils justifient leur action, puisque la Banque centrale est en train d'agir sur les taux d'intérêt pour essayer de ralentir l'économie. Et qui dit ralentissement de l'économie, dit forcément baisse de consommation du pétrole. Et c'est en cela que l'OPEP essaye de bien insister sur le fait que cette décision est vraiment une décision technique et pas une décision politique. Parce que c'est vrai que les conséquences politiques d'une telle décision sont majeures à plusieurs niveaux dans les rapports internationaux et également pour les États-Unis avec les mid-termes qui approchent et une situation très délicate pour Joe Biden.
Oui, Joe Biden, effectivement, qui s'échine depuis des mois à tenter d'enrayer cette flambée des prix, allant même jusqu'à se rendre à Riyad hein, en juillet, Jean-Marc Daniel.
Oui, ce qui est intéressant, on vient de le dire, c'est que traditionnellement, l'OPEP avait comme objectif de faire plutôt augmenter les prix jusqu'au moment où ça conduisait à un retrait d'une partie de la demande, de façon à engranger le maximum de bénéfices. Et cette intention qui était celle des 5 pays d'origine, maintenant, les 23 pays, puisque l'OPEP+, c'est 23 pays, ils ont du mal à la gérer. Parce qu'à 23, pour se mettre d'accord, c'est plus compliqué qu'à 5, surtout quand dans les 23, il y a l'Iran et l'Arabie Saoudite. Oui. Surtout quand les 23 n'arrivent qu'à la moitié de la production mondiale et que les États-Unis et le Canada sont quand même des acteurs très importants et qui sont en situation de vouloir modifier les conditions de marché décidées par l'OPEP. Donc là, ils sont véritablement dans une situation qui est plutôt une situation de conservation qu'une situation d'agression vis-à-vis des pays consommateurs. consommateurs de pétrole. On voit d'une certaine façon que le pouvoir de l'OPEP s'érode progressivement et que ces enjeux sont plutôt des enjeux d'éviter la chute des prix du pétrole que de véritablement maintenir une pression sur les pays consommateurs.
Cette chute qui nous réjouissait, Jean-Marc, effectivement, l'OPEP est là, évidemment.
L'OPEP essaie d'éviter la chute. Voilà. Est-ce qu'elle y arrivera pour son bien et pour notre malheur, c'est même pas évident.
Benjamin Louvet, effectivement, une telle décision arrangerait plutôt la Russie, néanmoins.
Oui, alors, un élément complémentaire sur ce que disait Jean-Marc. Oui. Aujourd'hui, l'OPEP aussi a une justification assez simple à avancer pour baisser sa production. C'est qu'en réalité, Jean-Marc le disait, quand les prix ont tendance à monter pour essayer de détruire de la demande. Or, ces derniers temps, tous les pays, beaucoup de pays, ont mis en place des mesures de subvention à la consommation pétrolière pour essayer d'éviter un impact social trop important. Et donc, en fait, le signal prix habituel qui fonctionne n'a pas fonctionné du fait de ces aides de l'État. Et donc, l'OPEP est dans son rôle en disant, bah, écoutez, nous, on constate simplement que la consommation de pétrole devrait être moins importante avec la récession qu'on connaît. Et donc, on va réduire notre production.
Pour la Russie, effectivement, on le disait tout à l'heure par rapport à l'énergie, on est constamment calé, Benjamin Louvet, sur le calendrier de Vladimir Poutine.
Oui, ben on est dans une situation qui est assez complexe. L'Europe a ce matin voté le cap sur le prix des exportations pétrolières russes. Vladimir Poutine a été très clair sur ce sujet. Les pays qui appliqueraient ce cap se verraient bannis, enfin d'achats venant de Russie. Donc Vladimir Poutine fait le choix de, quitte à moins vendre, garder lui aussi un prix plus élevé. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, parce que si le pétrole russe devait disparaître du marché en début d'année, on se retrouverait dans une situation assez compliquée. Ouais. Et c'est une hypothèse qui est pas complètement exclue, sachant que, compte tenu du fait que les conditions d'importation de ce pétrole russe vont être beaucoup plus compliquées, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues vis-à-vis des compagnies de transport notamment, on risque de se retrouver avec des surprimes qui font qu'au final, ce pétrole, il va nous coûter le même prix. Mmh. Et donc, on va se retrouver dans une situation très compliquée en termes d'approvisionnement de pétrole. Je rappelle à ce sujet que hier, le patron de Saudi Aramco rappelait qu'on a peut-être aujourd'hui, compte tenu du ralentissement économique, l'impression que la situation sur le pétrole se détend et le prix corrige, mais qu'en réalité, à la moindre étincelle sur la croissance économique, notamment en Chine, qui aujourd'hui est contrainte par la politique zéro Covid, on se retrouvera très vite sans aucune marge de manœuvre sur le pétrole du fait du manque d'investissement dans ce secteur ces dernières années. Ouais. Et donc, les prix pourraient repartir très fortement à la hausse. Donc, on a une situation sur le marché du pétrole qui va rester compliquée longtemps.
Merci beaucoup, Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières OFI Asset Management. Merci d'avoir réagi aujourd'hui. Dans 60 minutes business, réunion de l'OPEP+, donc en début d'après-midi. Tout de suite, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Et Jean-Marc, malgré ce qu'on vient de dire sur l'électricité, sur le gaz, sur le pétrole, il paraît qu'on va gagner en pouvoir d'achat l'année prochaine, Jean-Marc.
Et oui, exactement, oui. Ça peut paraître assez surprenant,
oui,
voire assez invraisemblable.
Mais enfin, on attend de voir.
Pour ne pas dire paradoxal, et qui le dit, c'est le rapport économique et financier, tiens, le document que remet le gouvernement au Parlement à l'occasion du vote de la loi de finances sur l'état de l'économie française. Alors, c'est un document qui contient énormément d'informations sur le passé, qui est fait par l'INSEE et par la direction du Trésor. Et puis, il y a une projection sur l'année budgétaire qui va être couverte par la loi de finances en cours d'examen.
Oui.
Alors, quand on regarde les hypothèses et tout ça, parmi les résultats les plus spectaculaires de cette projection, il y a le fait que le pouvoir d'achat moyen du revenu disponible brut des ménages devrait augmenter de 0,9% l'année prochaine. Alors, tout de suite, on se dit, mais ils ont fumé la moquette ou quoi ? Qu'est-ce qui leur arrive ? En fait, on s'aperçoit qu'il y a deux raisonnements assez intéressants dans ce document. Le premier, c'est le fait qu'il y a une remise à niveau des prix qui a eu lieu et que la déformation des prix est un peu derrière nous. C'est-à-dire que les prix ne vont pas baisser, mais l'inflation, c'est-à-dire la déformation du niveau général des prix, devrait fortement ralentir, oui, parce que les prix de l'électricité, du gaz, tout ça, ont quand même atteint des niveaux tels qu'on imagine mal qu'ils puissent continuer à augmenter. Le prix des produits alimentaires aussi devrait atteindre leur maximum. Et donc, on est plutôt dans une situation de stabilisation d'après ce document. On devrait avoir une inflation sous-jacente, une inflation durable, plutôt vers 2-3%. Et donc, on pourrait gagner ainsi du pouvoir d'achat. Le deuxième élément, c'est le fait que, effectivement, les choix qui sont faits, on l'a bien vu là, notamment avec l'intervention de Thomas, on l'a bien vu, c'est le choix qui sont faits, c'est de préserver les ménages et plutôt de taxer et de ponctionner sur les entreprises, sur certaines entreprises. Ouais. Il y a une stratégie globale de politique économique qui consiste à préserver les ménages et à faire payer la facture, soit à la génération d'après par la dette publique, soit aux entreprises par des tuyaux, des super profits taxés, etc.
Des rentes.
Voilà, on s'en bat sur les rentes et tout ça. Alors, je mettrais simplement en avant le fait que dans les années 70, on avait fait un peu la même chose et que le bilan avait été tiré à la fin des années 70 en disant que c'était une erreur de vouloir préserver quoi qu'il en coûte, les ménages, et de ne pas préserver l'avenir en évitant trop de dettes et trop de ponctions sur les entreprises. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et que ce pouvoir d'achat qu'on nous promet ne sera pas trop onéreux et pour la génération d'après et pour les investisseurs d'aujourd'hui.
Ouais, c'est toujours le problème, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Marc. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite. Avec vous Antoine Larigauderie, on est ravis de vous retrouver. Nette consolidation pour le CAC 40 cette fois après la très forte hausse d'hier, Antoine.
Vous voyez, du coup, on lâche les 6000 points qu'on avait reconquis lors de la séance d'hier. Extraordinaire, effectivement, une hausse d'un petit peu plus de 4%. Alors, beaucoup de choses se sont passées dans ces dernières 48 heures. Déjà, on a eu une vague de hausse sur le CAC 40, hein, 3 séances de hausse consécutives. Très forte hausse aussi sur les marchés américains, avec des hausses qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs années, hein, et notamment plus de 3% de progression pour le Nasdaq et pour le S&P 500 hier. En fait, il semble que le consensus de marché était tellement noir ces 10 dernières jours, qu'il y avait énormément de positions très très vendeuses qui s'étaient installées sur les marchés d'options et que face à la remontée progressive des marchés, il a fallu les nettoyer et racheter le marché, ce qui a amplifié le mouvement. Alors ça arrive de temps en temps, ce genre de cas de figure, parce que du point de vue fondamental, la situation ne s'améliore pas franchement sur le marché, la volatilité reste relativement élevée, on est du côté des 30 points sur l'indice VIX américain qui la mesure, et puis on reste dans l'interrogation de ce que vont faire désormais les banques centrales. Il y a un consensus de marché qui veut que face à la récession qui s'annonce violente, hein, en fin d'année, les banques centrales vont peut-être un petit peu modérer leur dynamique de normalisation monétaire. Ça, rien n'est moins sûr, hein. Franchement, tous les banquiers centraux ont été clairs là-dessus. On va continuer à serrer la vis tant que l'inflation est forte. Il y a plusieurs signaux qu'il faudra un petit peu regarder à ce niveau-là. Alors déjà les indices des prix, mais Jerome Powell veut aussi regarder de près ce qui se passe du côté du marché américain de l'emploi et voir s'il commence lui aussi à ralentir à cause du processus entamé par la Fed. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aura peut-être un pivot dans la stratégie de la Réserve fédérale américaine, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Et ça, on va en avoir un bilan détaillé à partir d'aujourd'hui, parce que cet après-midi, on a l'enquête ADP sur l'emploi privé américain. Le rapport américain sur l'emploi sera publié, lui, vendredi. Mais dans les deux cas, on n'attend pas franchement d'infléchissement, on attend toujours des chiffres plutôt robustes en matière de création d'emplois. Donc, on est un petit peu dans ce type d'interrogation là sur les marchés. En plus, on sort d'une forte hausse, donc il y a des bénéfices à prendre et des excès de position. Alors là, pour le coup, acheteuse à liquider et des bénéfices évidemment à dégager de ce qui a pu se passer sur les marchés ces trois derniers jours. Ça touche évidemment l'Eurostock 50 qui lui perd 1%. On est à moins 0,9% pour le DAX à Francfort, donc dans un marché assez attentiste. Évidemment, le facteur X aujourd'hui, ça va être la réunion de l'OPEP qui va statuer, hein, en toute logique, sur une réduction assez massive, hein, de sa production pour faire remonter un petit peu les cours, peut-être du côté des 95-100 dollars. Là, on a un Brent de mer du Nord qui a grimpé un petit peu à 91-80. Il y a déjà pas mal de choses qui sont intégrées à tout cela. Enfin, la dynamique peut reprendre de manière extrêmement violente là aussi. Sur les taux 10 ans, on reste sur l'académie à laquelle on a assisté ces derniers jours, hein, 2,54 pour la dette française, 1,95 pour la dette allemande et 3,70 pour la dette américaine, ce qui nous donne un euro qui est du côté des 99 cents, hein, face au dollar, et qui a même tendance à faiblir un petit peu, hein, pas impossible qu'on passe sous les 99 cents en cours de journée. Parmi les valeurs les plus travaillées, alors notez que les valeurs taux, entre guillemets, hein, réactive au taux d'intérêt et à l'assagissement hein, de ce qui se passe sur le marché obligataire, mais réagissent négativement à l'environnement actuel, notamment Unibail Rodamco Westfield hein, dans l'immobilier qui perd 6,6% à 41,89. On a l'ensemble du secteur bancaire qui est mal orienté. Crédit Agricole, moins 3,24 à 8,54. BNP Paribas, moins 2,91 à 44,15. Enfin bon, là, on peut parler vraiment de prise de profit. À noter des valeurs industrielles qui sont vendues aussi. Stellantis qui perd 3,27% à 12,50. Et puis à noter Renault qui perd 2,6% à 28,73. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Vallourec qui recule de 6,9% à 10,10. Puis à noter la forte baisse aussi de Valeo et de Forcia dans le domaine de l'équipement auto. Moins 6,32 pour Valeo, on est à 15,65. Et Forcia est à 11,73 en repli de 5,4%. À signaler d'autres valeurs qui s'en tirent plutôt bien. Alors on a un petit mélange de valeurs plutôt défensives. Si on regarde bien, Publicis plus 0,6% à 52,32. On a également Sanofi plus 0,54 à 80,45 ou Safran plus 0,5 à 99,65. La plus forte hausse, elle est pour EssilorLuxottica qui gagne 1,7% à 154,80 € et c'est par-dessus le marché. La plus forte hausse du SBF 120, puis à noter la bonne orientation sur l'indice large d'Euronext aussi qui gagne 0,7% à 67,98. Donc le CAC, moins 0,9%, on est sous les 6000 points, 5985 points et l'euro à 99 cents face au billet vert.
Un petit mot des cryptos, Antoine, pas de franche amélioration.
Non, c'est vrai qu'on a eu un marché hier qui a repris de l'appétit pour le risque, et ça c'était notable hein, sur un certain nombre de valeurs, valeurs de croissance, valeurs réactives aux cycles économiques, hein, les grosses industries aussi, qui sont l'objet de prises de profit hein, tout ensemble. Aujourd'hui, on aurait pu croire que ça bénéficierait aux cryptos. Bah, c'est loin d'être évident. C'est vrai qu'on a un Bitcoin qui a raccroché les 20 000 dollars, et ça c'est plutôt bon, mais on voit que l'Ether est vraiment à la traîne, hein, du côté des 1 300 dollars. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même une valeur qui s'en tire vraiment très très bien, mais ça fait plusieurs mois qu'elle surperforme l'ensemble des crypto, c'est l'XRP, hein, la crypto-monnaie du réseau Ripple, qui est vraiment en forte hausse, qui gagne quasiment 10% en 5 jours. Et là, la valeur est encore bien, bien orientée sur le marché des cryptos aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine Larigaudry. Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette réunion des énergéticiens ce matin avec Bruno Le Maire à Bercy. Ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, on va en parler avec Thomas Asportas et Jean-Marc.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
60 minutes business et on revient évidemment ce midi sur cette réunion des énergéticiens à Bercy ce matin. Bruno Le Maire qui s'est ensuite exprimé pour dire ce qu'il en était ressorti. Thomas Asportas, Bercy débloque donc une nouvelle enveloppe pour aider les entreprises face au choc énergétique.
Oui, alors déjà il faut remettre les choses dans leur contexte politique. Il y a un débat budgétaire qui démarre à l'Assemblée. Il y a une pression quotidienne des oppositions et en premier lieu de la NUPES pour mettre en place une taxe sur les super profits des énergéticiens. Et cette annonce ce que fait Bruno Le Maire ce matin, c'est la réponse de l'exécutif à ce coup de pression politique, puisqu'il annonce effectivement un mécanisme de plafonnement des revenus des producteurs d'électricité. Alors ça ne vient pas de Bruno Le Maire tout seul, c'est une mesure qui a été prise au niveau européen vendredi dernier au Conseil des ministres de l'énergie, et à l'issue de ce Conseil, il a été décidé de plafonner à 180 € le mégawattheure, 180 € le mégawattheure d'électricité, et Bruno Le Maire a donc annoncé la transposition de cette mesure via un amendement au projet de loi qui arrive donc en débat dans l'hémicycle à partir de la semaine prochaine. Cette mesure-là, Bruno Le Maire estime qu'elle va permettre de rapporter dans les caisses de l'État 5 à 7 milliards d'euros supplémentaires. C'est une enveloppe, donc une nouvelle enveloppe hein, qui n'était pas budgétée jusqu'à présent, qui s'ajoute aux 19 milliards d'euros qui, eux, étaient déjà inscrits dans le budget et qui viennent de la captation des super profits des producteurs d'énergie renouvelable. C'est un mécanisme technique qui s'appelle la CESPE, qui flambe du fait des prix de l'électricité aujourd'hui sur les marchés. Donc il y avait déjà 19 milliards mis de côté. Il y a 5 à 7 milliards supplémentaires qui vont se rajouter. Donc ça fait en tout quasiment, plus de 25 milliards d'euros. Ouais. Et tout cet argent va servir à financer toutes les mesures de redistribution qui sont en vigueur depuis un an et qui auront encore cours l'année prochaine, notamment le bouclier tarifaire qui fait que les prix de l'électricité et du gaz vont être plafonnés à 15%. Enfin, l'augmentation va être plafonnée à 15%. Les aides aux entreprises aussi. Il y a une enveloppe de 3 milliards d'euros qui a quasiment jamais été décaissée jusqu'à présent parce que les critères sont trop compliqués. Bruno Le Maire fait le forcing auprès de la Commission européenne, d'une part pour assouplir les critères pour que les entreprises puissent toucher ces aides, et d'autre part pour que le montant de ces aides soit doublé. Oui. Aujourd'hui, elles sont plafonnées à 25 et 50 millions d'euros. Il veut que ça passe à 50 et 100 millions d'euros. Et Bruno Le Maire a bon espoir que cette enveloppe soit décaissée et qu'on dépasse même les 3 milliards. Mais donc, pour financer davantage que ces 3 milliards, eh bien, l'enveloppe qui a été annoncée ce matin va servir à ça.
L'enveloppe de 5 à 7 milliards qu'on appelle désormais une rente, Jean-Marc.
Oui, absolument. Ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution du vocabulaire, du langage. C'est-à-dire que Bruno Le Maire nous avait dit à la REF qu'il ne savait pas ce que c'était que des super profits. Donc, il a cherché un dictionnaire, il a trouvé un autre mot, une rente, et là, maintenant, il sait ce que c'est.
Une rente, ça passe. Voilà, hein, rente, ça va passer
il sait,
mieux.
Il sait ce que ça signifie. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que ça signifie, mais désormais, on va considérer que tout le monde sait. Moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est effectivement, Thomas l'a dit, c'est, on est dans un contexte très politique. C'est-à-dire que la loi de programmation des finances publiques, qui est un texte relativement technique, a été rejetée par le Parlement. Et donc, ça prouve que l'opposition, sur tous les aspects financiers et économiques, veut en découdre avec le gouvernement. Ouais. Et à partir du moment où, finalement, le président de la République dit, écoutez, si ça continue comme ça, la dissolution est une hypothèse que nous devons envisager, on a l'impression que tout le monde prépare à court terme un débat politique, de nouvelles élections, et donc tout le monde se positionne. D'ailleurs, Mme Pannier-Runacher, qui était en avant dans ce dossier, maintenant, a été plus ou moins mise à l'écart au profit de Bruno Le Maire, qui est un poids lourd de la majorité du gouvernement et un poids lourd de la politique économique.
Bruno Le Maire qui a mis la pression, hein, d'ailleurs, pour que ses énergéticiens signent une charte de bonne conduite, Thomas.
Oui, on s'attendait effectivement avant toute chose à des engagements forts pris par les énergéticiens. C'était le but de cette réunion. Donc cette nouvelle manne de 5 à 7 milliards, elle est un peu arrivée par surprise à l'issue de cette réunion. Mais effectivement, une charte de bonne conduite signée par les énergéticiens. Alors il n'y a pas des engagements spectaculaires qui sont pris par eux. Hein. Ils s'engagent notamment à fournir, quoi qu'il arrive, un contrat à chaque client. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont pas de contrat proposé par leurs fournisseurs. Donc ça, Bruno Le Maire dit niet. Tous les fournisseurs s'engagent à proposer au moins un contrat. Ils s'engagent aussi à prévenir leurs clients au moins 2 mois avant le terme de leur contrat pour qu'ils aient le temps de s'organiser et de faire jouer la concurrence. Et enfin, une dernière mesure qui, elle, est un peu plus significative et qui est importante pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est que l'État va apporter sa garantie au contrat signé auprès des fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, tout un tas d'énergéticiens refusent de signer des contrats avec des clients parce qu'ils les estiment pas solvables, pas en capacité d'honorer les contrats. Et ça, l'État a dit qu'il allait apporter la garantie sur les contrats pour pouvoir, pour le coup, là, apporter une sécurité aux fournisseurs. Bon, c'est important et ce sera, introduit là aussi dans le budget par amendement.
Et il y a un contexte européen autour de tout cela, Thomas, c'est Ursula von der Leyen qui, elle aussi, va chercher à plafonner les prix du gaz. Il y a une réunion très importante des chefs d'État. Apprends-moi rapidement, Thomas.
Oui, on dit ça d'un mot, effectivement. Au même moment où Bruno Le Maire s'exprimait, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'exprimait, elle, au Parlement européen à Strasbourg et elle indiquait que la Commission, ça y est, était prête à travailler à un plafonnement des prix du gaz. Alors, il faut préciser ce que ça veut dire. Est-ce que c'est que le gaz russe? Est-ce que c'est tout le gaz importé en Europe? Est-ce que c'est le gaz uniquement qui sert à fabriquer de l'électricité? Ou est-ce que c'est que le gaz transmis par gazoduc? Donc, vous voyez, il y a gaz et gaz. Il va falloir préciser tout ça, effectivement, d'ici à vendredi, jour où se réunissent tous les chefs d'État lors d'un Conseil européen à Prague.
Merci beaucoup, Thomas. Merci, Jean-Marc. On se retrouve... vous retrouvez Thomas Schnell demain.
Moi, absolument.
Merci beaucoup, messieurs. Allez, on se retrouve dans un instant pour le journal de Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, le gouvernement va plafonner le prix de l'électricité à 180 euros le mégawattheure via un amendement au projet de loi de finances, ce qui permettra à l'État de récupérer entre 5 et 7 milliards d'euros qui seront destinés au financement des aides aux entreprises et aux collectivités. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire ce matin. Autre annonce, l'État va aussi faciliter la signature des contrats de gaz et d'électricité aux entreprises en apportant sa garantie. Les réserves françaises de gaz sont pleines. Annonce de la Creuse ce matin qui précise que des situations de tension restent possibles cet hiver. La Commission de régulation de l'énergie appelle à un effort collectif massif pour réduire nos consommations. Et toujours à propos d'énergie, une coupe franche dans la production de pétrole. C'est ce que l'OPEP Plus devrait décider aujourd'hui lors d'une réunion à Vienne. Les membres pourraient acter une baisse drastique des quotas jusqu'à 2 millions de barils jour pour soutenir les cours face au ralentissement de la demande. Dans ce contexte, L'OMC s'attend à un coup de frein sur le commerce mondial. Il devrait progresser de 3,5% cette année, mais de seulement 1% l'année prochaine, contre une croissance de 3,4% initialement anticipée. En France, la production industrielle rebondit de 2,4% en août, contre un recul de 1,6% en juillet. C'est une surprise, hein, puisqu'on s'attendait à une stagnation. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la concertation sur la réforme des retraites. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, reçoit l'ensemble des partenaires sociaux en début d'après-midi. Tous les syndicats ont accepté de s'y rendre, mais ils ont posé leurs conditions. Pas question de reculer l'âge de départ à la retraite. Et puis dans l'actualité entreprise, Bouygues a finalisé l'acquisition d'Equans pour 6,5 milliards d'euros. C'est son plus gros rachat de l'histoire. Bouygues entend désormais devenir un leader mondial dans les services multitechniques. Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues, sera l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir 19h30 sur BFM Business. On jette un coup d'œil au marché. Le CAC évolue toujours dans le rouge à la mi-journée, moins 0,6%. 6,001 points, Sandra.
Merci Stéphanie. Votre prochain journal à 15h.
Votre rendez-vous avec Bruno.fr, le spécialiste de tous les équipements de travail. Bruno, BRUNEAU, à vos côtés pour réussir.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, Lorraine Goumeau avec vous qui répond à vos questions. Lorraine, aujourd'hui on va parler aux micro-entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, pardon.
Et oui, c'est notre mission mensuelle dédiée à vous, à vos problèmes. Et pour vous apporter des solutions, on est avec Ludovic Badeau. Bonjour Ludovic.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra.
Vous êtes notre spécialiste de la micro-entreprise. Aujourd'hui, on zoome sur un problème important pour toutes les entreprises, qu'elles soient micro ou maxi, ce sont les impayés. Alors on va commencer avec ce témoignage de Thomas, si vous voulez bien. Il est un peu long, mais il résume l'esprit. J'ai des retards de paiement fréquents, ce qui m'importe beaucoup économiquement et moralement. C'est épuisant d'attendre d'être payé quand on donne autant d'énergie à chaque client. Du coup, je m'intéresse de plus en plus à l'affacturage, qui permet de céder ses factures à une banque pour être payé tout de suite. J'hésite depuis plusieurs mois et je profite de votre émission pour vous poser la question. Que vaut l'affacturage et à quoi faut-il être particulièrement attentif si on décide d'aller vers cette solution? C'est la question de Thomas, elle est pour vous Ludovic.
Oui, et je pense que là, dans la question de Thomas, il résume parfaitement l'état d'esprit de beaucoup d'indépendants qui tournent à flux tendu en termes de trésorerie et pour qui, franchement, attendre longtemps, trop longtemps, le règlement des factures, même les délais légaux, ne sont pas forcément adaptés pour les indépendants, ça peut être compliqué. Donc l'affacturage peut être une solution, mais il faut dire que c'est généralement réservé aux entreprises qui font un minimum de chiffre d'affaires, qui a des conditions d'éligibilité et qu'il faut constituer un dossier qui peut être un peu lourd, un peu complexe. Et puis, qui dit affacturage dit finalement c'est une avance de trésorerie. Hein. Si derrière votre client ne règle pas la facture, la banque peut revenir vous voir, sauf si vous prenez des garanties supplémentaires qui sont assez coûteuses, la banque peut revenir vous voir pour vous réclamer de rembourser la somme. Donc plutôt que la facture, ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser au rachat de factures. C'est une activité que j'ai découvert en préparant cette émission et qui consiste donc à racheter tout simplement la facture dont vous attendez le règlement. Donc forcément, vous allez céder une part à la personne qui vous rachète la facture, enfin à la plateforme qui vous rachète la facture. Mais les formalités s'avèrent plus simples. On vend la facture tout simplement aux plateformes et on touche l'argent moins une commission.
Ouais, donc c'est quand même un arbitrage, on choisit de sauter un peu de revenus potentiels pour être sûr d'avoir du cash qui arrive tout de suite.
Exactement, et l'affacturage c'est plus quand on s'inscrit dans une stratégie d'avance sur la durée, alors que la facture ça permet de faire de temps en temps quand on a vraiment besoin d'un coup de soutien pour la trésorerie.
Cette question de Kevin à présent. En juin 2022, j'ai finalisé une prestation de recrutement pour une start-up bien connue d'une centaine de collaborateurs. Depuis, je cours après le règlement de ma facture d'environ 3000 euros. J'ai pensé aller voir un huissier, mais je suis un peu perdu. Première question, dois-je déclarer ce montant à la date de facturation ou à la date de paiement? Et surtout, qu'est-ce que vous me conseillez pour récupérer mon argent? C'est toujours la même question.
Oui, effectivement, c'est une question clé. Alors, première question, en tant qu'auto-entrepreneur, et c'est important de le rappeler, on ne déclare que ce que l'on a encaissé. Donc, on ne déclare pas ce que l'on a facturé. On attend d'avoir l'argent pour le déclarer sur sa déclaration de chiffre d'affaires. Seconde question, il existe aujourd'hui des plateformes qui permettent de démocratiser, de simplifier véritablement l'action de recouvrement. Je pense notamment à des plateformes comme RubyPayer ou LegalStart qui vont prendre en charge le recouvrement contre une commission. Tout est automatisé, vous êtes véritablement accompagné. Donc là, en l'occurrence, pour une facture de 3000 euros, je ne recommande pas à Kevin d'aller voir un huissier, mais véritablement de se tourner vers ces plateformes spécialisées. C'est très bien fait, c'est très simple. On va avoir trois étapes. D'abord, on va l'accompagner sur ce qu'on appelle le recouvrement amiable. On va aller voir le client en lui disant, bon, faut régler, est-ce qu'on peut s'arranger, est-ce que le règlement peut arriver. Si ça marche pas, la plateforme va faire une mise en demeure. Et enfin, ça va passer sur la procédure judiciaire pour avoir une injonction de payer et en dernier lieu, une saisie attribution. Donc là, le conseil, c'est, Kevin, allez voir les plateformes qui vous permettent de faire du recouvrement. Il y en a un certain nombre et elles sont très efficaces.
Et pour le coup, elles s'adressent aussi aux micro-entrepreneurs.
Absolument. Ce qui est intéressant sur ces plateformes aussi, c'est qu'on va pouvoir très facilement entreprendre une action de recouvrement, quel que soit le montant de la facture. On n'est pas obligé d'avoir une facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros, des 50, 100, enfin, il n'y a pas de minimum en fait. Donc, c'est vrai que c'est très pratique.
Alors, tout à l'heure, vous nous disiez, Ludovic, que les délais légaux ne sont pas toujours adaptés aux indépendants, aux plus petites structures. C'est le témoignage de Magali qui nous dit en substance qu'elle a peur de demander à être payée plus rapidement par ses clients, qui sont plutôt des profils grosses boîtes. Elle a peur que ça nuise à sa réputation et que ses clients décident d'aller voir ailleurs. Comment amener le sujet ?
Oui, alors c'est assez fréquent qu'on ne pense pas à négocier les délais de paiement. Pourtant, le sujet des délais de paiement, il est fondamental pour les indépendants, je l'ai dit, qui ont une trésorerie à flux tendu. De la même manière qu'on négocie ses tarifs, il ne faut pas hésiter à discuter des délais de paiement avec son client avant de réaliser la prestation. Je connais pas un client qui va vous dire, pour en avoir un certain nombre, qui va vous reprocher d'aborder ce sujet au départ en disant, voilà, vous avez une politique de paiement à 45 jours fin de mois, c'est extrêmement long pour moi. Est-ce qu'on peut échanger sur le fait de réduire le délai de paiement ? On l'anticipe, on le définit et on l'inscrit sur le devis et sur les conditions générales. Mais il ne faut pas avoir peur d'aborder ces sujets qui sont des sujets importants parce que quand on ne reçoit pas le paiement de sa facture et qu'on est en difficulté financière, au final, on ne rend pas une bonne prestation à son client parce qu'on n'est pas, serein. Oui. Donc il faut mieux aborder ces sujets au départ.
On pourrait même dire que ça crédibilise en fait, d'arriver à aborder le sujet de l'argent avant.
Oui, il faut être tout à fait tranquille avec l'argent, sans souci.
Perrine nous pose cette question via LinkedIn. Auto-entrepreneuse depuis 2 ans, j'ai eu la malchance à 3 reprises de tomber sur un mauvais payeur. Concrètement, est-ce qu'il y a des moyens de les éviter, ces mauvais payeurs ?
Alors, des moyens d'éviter les mauvais payeurs, j'ai pas de solution à 100%. Maintenant, il y a des réflexes à avoir. Par exemple, l'acompte peut être une solution, c'est-à-dire de dire à son client, voilà, il faut régler un acompte. Alors, attention, là, c'est aussi la même chose. Il faut bien discuter du délai de paiement de l'acompte. Parce que si vous faites un acompte dont le délai de paiement s'applique de la même manière que la facture, donc il faut dire, ok, je fais un acompte, il sera payé sous combien de temps ? C'est vraiment important. La seconde chose, c'est pourquoi pas de vérifier la santé financière de l'entreprise. Vous avez beaucoup de sites internet aujourd'hui avec des systèmes de notation un peu variables, mais qui vous permettent d'avoir une estimation de la santé financière de l'entreprise si elle n'est pas connue, pour voir si vous préparez à travailler avec une structure fragilisée ou pas. Et puis le troisième élément, c'est des plateformes comme Malt, c'est des plateformes de freelancing, qui vous permettent en fait d'opter pour le prépaiement. Donc le client, s'il vous choisit, il va devoir prépayer avant que vous n'effectuez la prestation et vous allez toucher l'argent une fois que la prestation est terminée puisque l'argent a été bloqué par la plateforme le temps d'exécution de cette prestation. Donc la solution du prépaiement avec ces plateformes est vraiment intéressante parce qu'elle évite aux freelances de se confronter à ces délais de paiement qui sont supportables pour des entreprises qui ont une trésorerie, beaucoup moins pour les indépendants.
Et ça oblige effectivement les clients à payer tout de suite.
Ça oblige les clients effectivement à payer tout de suite. Donc c'est aussi une forme de sécurité forcément puisque si vous ne payez pas, la prestation ne peut pas débuter.
Enfin, on note quand même que Magali et Perrine sont 2 femmes et qu'elles ont des problèmes à se faire payer. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le sexe, mais c'est l'objet peut-être d'une autre émission. Une question de Swan qui nous a écrit sur Facebook. Est-ce que les grands donneurs d'ordre ne pourraient pas réduire significativement leur délai de paiement pour permettre aux plus petites entreprises pour qui chaque facture est vitale et bien de survivre? Qu'est-ce qu'on peut dire de manière un petit peu macroéconomique, Ludovic?
Moi, ça m'a rappelé cette question, ça m'a rappelé le début de la crise Covid quand Bruno Le Maire a appelé les grandes entreprises à régler rapidement les petits prestataires parce que c'était vital pour eux. Là, on rentre dans une période d'incertitude économique. Tout le monde est très, très proche de son cash. Les grands groupes aussi. Et on a envie de dire, il faut envoyer le même message, régler les petites entreprises rapidement, parce que c'est essentiel. Et je pense effectivement que Magali soulève une question qui serait peut-être d'imaginer, je ne sais pas si c'est possible, mais des délais de paiement qui sont adaptés en fonction du prestataire. Quand vous avez un petit prestataire et quand vous avez un grand groupe en face de vous, un grand prestataire, si j'ose dire, c'est pas forcément la même chose. Les délais de paiement aujourd'hui, par défaut, c'est 30 jours nets à date de facturation, 45 jours fin de mois, ou 60 jours nets. C'est d'ailleurs les deux délais qui s'appliquent le plus souvent. Vous imaginez, pour un auto-entrepreneur qui tourne à flux tendu, pour qui finalement c'est comme son salaire, hein, une fois qu'il a fini sa prestation, c'est très difficilement tenable. Donc, effectivement, ça peut être une piste de réflexion, je crois, de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas des délais de paiement qui seraient adapté en fonction de la taille du prestataire.
Voilà, ces sujets de délai de paiement, on essaie de les porter également pour les TPE et les PME sur notre antenne régulièrement, mais c'est aussi important de les apporter pour les micro-entrepreneurs et les micro-entrepreneuses. On a d'autres questions, notamment autour du médiateur à la consommation ou sur les procédures de recouvrement. Alors, ce que je vous propose, Sandra et Ludovic, c'est que la prochaine fois que vous venez, on refait ce sujet d'impayé, parce que c'est sûr qu'avec la crise énergétique et la situation économique, eh bien, je pense que ce sera un sujet d'actu. Donc, envoyez-nous vos questions, on y répondra.
On ne manque pas de questions. Merci beaucoup, Ludovic Batou, d'être venu nous voir. Vous restez avec nous dans un instant. On recrute dans BFM avec vous. À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous recrute comme tous les jours, et votre première recruteuse, Lorraine, est Estelle Keraval.
On part du côté de la Bretagne, la vraie Bretagne, du côté de Lannion, rejoindre Estelle qui est la patronne du Technopôle Anticipa. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Avec vous, on va parler d'un territoire extrêmement dynamique en termes de création et de développement d'entreprises innovantes. Pitchez-nous en une minute ce que vous faites du côté de Lannion avec votre équipe.
Alors, du coup, la Technopôle Anticipa, c'est une structure qui fait de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises industrielles et innovantes. Et donc, effectivement, nous, on travaille sur le bassin de Lannion, qui est un bassin extrêmement riche d'entreprises technologiques. On comptabilise environ 150 entreprises technologiques et 200 si on intègre les entreprises industrielles. Ça représente 6000 emplois, dont 3500 ingénieurs et chercheurs. Donc, c'est à la base une terre de télécom qui s'est aujourd'hui largement diversifié et qui continue d'avoir un gros dynamisme du point de vue des start-up et de la présence de grands groupes internationaux également.
D'après ce que je vois, Estelle, vous recrutez énormément de postes.
Il y a une très très forte dynamique, on va dire, depuis un petit peu plus de 2 ans. Le territoire de Lannion est positionné sur les technologies télécom d'avenir, hein, comme la 5G, on parle déjà de 6G. On parle également beaucoup sur le territoire de cybersécurité. Donc c'est des postes extrêmement structurants et des innovations extrêmement structurantes pour le territoire et le secteur des télécoms. Et plus largement, on recrute également dans le domaine du numérique avec des emplois plus classiques en termes de développeurs web, Java, Python, toutes des terminologies de langage de développement que l'on peut entendre. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a aussi une diversité en termes de niveau de qualification, puisque le secteur de Lannion s'est fortement aussi industrialisé ces dernières années. Autour d'une technologie qui est la photonique. Alors la photonique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Vous allez nous décrire.
Comment ?
Vous allez nous dire ce que c'est.
Ah, je vais vous dire. Alors, c'est une technologie qui est issue de la science de la lumière. C'est une technologie qui est issue du savoir-faire des télécoms et qui aujourd'hui travaille de manière extrêmement diversifiée au niveau des marchés applicatifs, puisqu'il y a des applicatifs dans le domaine de la défense, du spatial, de la santé, de l'environnement. Et donc, c'est un secteur qui intègre de l'industrialisation et donc également des postes de techniciens ou d'opérateurs de production.
Estelle, qu'on comprenne bien, vous recrutez environ 200 personnes pour les entreprises que le Technopôle représente, c'est bien ça ?
C'est exactement ça.
Donc vous, Anticipa fonctionne un petit peu comme une plateforme, notamment de recrutement et de staffing. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes des boîtes qui recrutent dans le cadre de votre association ?
Alors donc nous, on anime une
sans faire de jaloux, hein.
Qui s'appelle... Comment ?
Sans faire de jaloux.
Non, sans faire de jaloux, mais on anime une marque qui s'appelle Working Lannion, dont l'objectif est de montrer que sur un territoire comme Lannion, qui est un territoire extrêmement atypique et singulier, on peut développer vraiment une carrière professionnelle ultra riche, puisqu'il y a à la fois des grands groupes et des startups qui sont présents. Et donc, sur les entreprises qui recrutent, on a aussi bien des entreprises comme Nokia, on a des entreprises comme Qualcomm, on a des entreprises plus sur des formats ETI comme EcoCompteur, Apizy, qui sont moins connues et qui permettent aussi de pouvoir s'épanouir dans un contexte d'entreprise de type start-up.
Et la localisation, donc, il faut avoir envie d'aller habiter en Bretagne, du coup.
Voilà, donc Lannion, effectivement, c'est un territoire qui est au cœur de la côte de Granit Rose, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un breton basé dans les Côtes d'Armor, et donc sur le plateau technologique où on travaille et où les recruteurs sont présents, on est à moins de 10 minutes de la plage, donc la possibilité d'aller faire un petit bain de mer le midi, l'été bien entendu,
ou du kite,
ou tout simplement de respirer le grand air, hein, tout en ayant une carrière professionnelle tout à fait dynamique, avec des entreprises qui travaillent à l'international et qui développent des technologies de rang mondial.
Voilà, Lannion, Guingamp et Paimpol aussi, c'est tout un territoire qui est dynamique. Il faut y aller si vous n'y êtes jamais allé. C'est littéralement une Silicon Valley à la française. Alors, pour rejoindre quelques-unes des entreprises que Estelle nous a citées, mais plein d'autres, vous allez sur le site workinlannion.bzh. Vous allez retrouver quelques-uns des postes qu'on a pu citer, des testeurs, des coordinateurs, des développeurs dans tout type de langage, des concepteurs, des chefs de projet telco, vous avez entendu. Et puis aussi, si votre expertise est dans la photonique, eh bien, il y a des opportunités pour vous.
Merci Estelle Caraval d'avoir été avec nous dans BFM avec vous.
Grand merci.
On continue à recruter. On rappelle quand même avant cela que vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter. Cette adresse aussi avec vous à bfmbusiness.fr. Et puis il y a ce QR code que vous voyez sur votre écran et qui vous permet de tomber directement sur notre messagerie. Votre deuxième recruteur, Lorraine, Xavier Abramovitz.
C'est le responsable RH d'Arcane. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Avec vous, on va être dans le conseil et le média aussi en même temps, parce que vous aidez vos clients, vos clientes à être mieux visibles. Pitchez-nous ce que vous et votre équipe vous faites.
Alors effectivement, Arcane, notre activité, on est un cabinet de conseil en data marketing. Notre métier, c'est de mettre la data au service du média. C'est-à-dire, plus concrètement, on aide nos clients, qui sont des entreprises qui font de la publicité sur Internet, à exploiter la richesse de leurs données propriétaires, et notamment les données CRM et les données produits.
C'est tout un chantier. Vous êtes très nombreux sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulièrement technologique qui vient de définir votre entreprise ?
Alors, Arcane a investi dès sa création en 2016 dans la R&D, et a créé une équipe tech en interne qui a développé une technologie propriétaire de gestion de flux. La gestion des flux de données vers les plateformes des grandes régies publicitaires que sont Google, Facebook. Et on va enrichir ces flux grâce aux données de stock, aux données de prix, aux données de marge réalisées par nos clients, et on va comme ça mieux nourrir l'algorithme de Google et optimiser les campagnes marketing de nos clients. Donc c'est vraiment ça notre plus-value, d'apporter un apport technologique. Et on a vraiment en fait trois activités. On est à la fois agence média, on accompagne les clients au quotidien dans leurs dépenses médias, notamment sur deux leviers qui sont le SEA, donc le référencement payant sur Google, et le SMA, Social Media Advertising, donc la publicité sur les réseaux sociaux. Une activité de conseil data, on va vraiment travailler sur la donnée client et comment faire les bons choix pour attribuer son budget au bon levier. Et enfin, cette techno propriétaire qu'on met au service de nos clients et qui enrichit l'offre média.
Alors, vous recrutez une quinzaine de postes.
On recrute... Alors, pour l'instant, on est encore en train de définir notre budget pour 2023.
Oui.
Là, actuellement, j'ai une dizaine de postes ouverts. Je pense qu'on va recruter entre 20 et 30 personnes sur 2023. On recrute des personnes en CDI, mais également des stagiaires de fin d'études, des stagiaires de césure et également des alternants. On est vraiment dans une logique de recrutement par le bas. On est dans des marchés hyper compétitifs. tous les métiers que je vais vous présenter qui sont chez Arcane sont des métiers dans lesquels on a du mal à recruter.
Donc, alors, on le sait parce qu'on comprend, entre l'agence média, le conseil data et puis la techno, vous cherchez des profils un petit peu hybrides. Alors, listez-nous, ouais. Vous avez 30 secondes, les postes à pourvoir chez vous.
Alors, on recherche des consultants médias, qui sont des profils plutôt marketing, des consultants data, qui sont des profils ingénieur ou école de commerce mais ayant une compétence programmation data, et on recrute aussi des ingénieurs de développement sur des technologies Python, React.js qui sont la stack technique de notre technologie, et on a un poste aussi de compte stratégiste qui est pour traduire en français un commercial grand compte qui gère la fidélisation auprès des clients.
Vous êtes localisé à Paris, vous avez une politique de télétravail aussi. Hein.
Oui, on est localisé à Paris, dans le 10e. Ouais. On a des très beaux locaux d'ailleurs, dans des chambres de bonne aménagées, dans un vieil immeuble haussmannien qui donne beaucoup de cachet à nos locaux. Donc des locaux hyper sympas. Et on privilégie aussi bien la vie de bureau, où on crée beaucoup de choses pour que les arcaneurs soient bien au travail, qu'ils se sentent vraiment chez eux. Et on a également une politique de télétravail 50% remote pour que tout le monde y trouve son compte.
Voilà, ce qu'on postule. Alors. Vous l'avez entendu, si vous êtes un wannabe marketeur un peu classique ou un ingénieur proche de la machine, il y a du boulot chez vous, chez Arcane. Alors, ça se passe directement à l'adresse de Xavier, vous voyez, un RRH très proche de ses futurs recrutés.
Tout à fait.
Xavier@arcane.run. Et puis, ça se passe aussi sur Welcome to the Jungle, sur la page d'Arcane, que je vous appelle, pour ceux qui nous écoutent, ARCANE.
Merci Xavier Abramovitch d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay évidemment demain. Attention, émission spéciale de Good Morning Business dès 6h depuis le marché international de Rungis. Et puis 60 minutes business vous sera présenté par Thomas Schnell avec Jean-Marc et avec Lorraine. Évidemment, très bonne journée sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.